Radio Campus 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qui est, putain de merde!
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve!
C'est pire que la guerre!
Permettez que je jette un coup d'œil à la flèche, je suis médecin.
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Avouez, cher monsieur, que la mésaventure qui va suivre vous est déjà.
Cette crise est en fait au départ un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est
la crise. Traverser la
rue. Les pays qui ont été fortement impactés par la crise.
Notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B.
Allez, top!
C'est dans le mètre. Là, on peut le mettre.
On ne connaît pas tout de gauche, c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on n'est pas rien, puis dans une heure, on s'arrête pour aller casser la graine.
Nous ne voulons pas de la lutte des classes.
Et puis tout à coup, explosion sociale, occupation d'usine.
La révolution, par exemple, on ne sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu salis le tapis avec ton sang.
C'est quoi vous dire? Que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans sa conception.
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer à des...
Si j'étais UMP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sur mes foutues femmes rouges,
hein ? Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est cela ?
C'est dans le mètre.
L'octolomètre.
Vous allez le mettre où, ça ?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Et puis, un petit peu de rouge. Et puis, un petit...
30 ans après, c'est encore le même conseil social. Et la chanson, c'est la même.
Il y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs. Et puis, à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais tu vas forcément toucher, les jamais tomber en panne de poste. Tu dis tant que je connais pas.
Aujourd'hui, mercredi 24 février 2021, c'est la Sainte Génération Identitaire. Sainte Génération Identitaire est la sainte patronne des trous mous. Mou, mou, mou. Tu sais que ça fait longtemps déjà que la tendance politique va vers l'extrême droite. On y est peut-être même déjà arrivé si ça tombe. Tu te souviens, avant, il y avait le vieux milliardaire Borne et sa grande gueule. Il avait fait un boulot formidable, mais comme il n'était pas présentable, il a laissé sa place à sa fille milliardaire. Elle a pris les choses en main pour tout dédiaboliser partout comme il faut, même dans les coins que tu pourrais manger dedans. Et elle a encore plus tout dédiabolisé, à un point que partout, on a vu apparaître des petits messieurs Jourdain qui faisaient du fascisme, sans le savoir. Et tu sais, malgré ce travail de longue haleine et les efforts acharnés de ce tout petit parti seul, abandonné, isolé, qui pouvait compter pour faire connaître ses idées que sur lui-même, et sur Le Figaro, et sur Valeurs Actuelles, Causeur, Zemmour, Finkielkraut, Forest, LCI, CNews, TF1, France Info, et Café du Commerce, mais pas en ce moment parce qu'il est fermé, et bien malgré ça, il y en a, ils y arrivent pas. Ils savent pas faire de l'extrême droite comme il faut. Et tu sais qui c'est ces gens-là? C'est les mous. Mous, mous, mous. Des mous, des mollassons, des endormis, dès qu'ils passent leur temps à chialer sur l'immigration massive et le pauvre petit homme blanc qui va se faire grand remplacer par derrière. Des amorphes, qui en guise d'action déploient des banderoles sur le toit du siège du PS, comme des tarlouses véganes, la honte. Des ramolos qui se bastonnent avec les forces de l'ordre dans une manifestation à Calais, comme des vulgaires antifas ou des trous de ballon gilets jaunes. Ou même des cerfs-volants qui séquestrent des membres de SOS Méditerranée dans leurs locaux. Eh, il y a que la racaille CGTiste pour faire ce coup de la séquestration. Et même des cadres de sainte génération identitaire qui se sont vus condamnés pour des agressions au couteau comme des barbus slamistes séparatistes. Franchement, aucune lisibilité dans les actions. Et puis c'est mou tout ça. Mou. Faut vous rendre à l'évidence les gars. L'extrême droite n'a plus le monopole du fascisme. Vous vous êtes reposé sur vos lauriers, vous pensiez que c'était du tout cuit. Bah rien, peau de balle, vous avez raté le train. Le train de la modernité. Il y a de plus en plus de monde sur le marché du racisme respectable et de la xénophobie en costard. Et tu sais comment ils s'appellent ces nouveaux venus? Éric Zemmour, Elisabeth Lévy, Jean Messiha, des judéométèques. C'est bien la preuve que le grand remplacement a commencé. Ils sont là. Et c'est pour concurrence déloyale que Darmanin, le violeur supposé de Tourcoing et de Beauvau réunis, vous a canonisé votre sage génération identitaire. Hein? Non, sans son consentement cette fois. Mais c'est pas sans solution tout ça. Tu sais, aujourd'hui, si t'es jeune, d'extrême droite, et qu'on t'a piqué ton boulot de fasciste bénévole, tu peux toujours rentrer dans la police. C'est pareil, et en plus c'est payé. Aujourd'hui, mercredi 24 février, le soleil s'est levé en faisant des clics et des claques, des plics et des plocs, des tics et des tocs. Il se couche, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le vent qui souffle, c'est la pluie qui tombe, c'est le tonnerre qui gronde, les lapins bleus vont s'enrhumer. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus, le campusfil.com et le DAB+.
Ouais, le dédicace pour tous les jeunes qui disent qu'ils font du sport, non? Non, Jade, qui va là? Les blagues à ma fine sont là, don't leak shot, Polino, just cool, respect. Hey, l'endommancé. Hey, un peu de sport, c'est si bon. 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 Écoute, j'ai la vie, je mets les taux, je dois bouger en studio. Je mets un son, je roule un petit et je vais dans ma salle de ma vie. Prends un Crespo et je bouge l'hélico presto. Je suis jusqu'au bus à la croix de chapeau. Car en ce moment, pour les nègres, le métro c'est trop chaud. C'est la police qui règne à l'appui du crack et de l'héros. Ils arrêtent du vent mais interpellent les négros. Et je dois y avoir meilleure vis à faire dans le ghetto. Je poinçonne mon ticket, le chauffeur est pété. C'est connu pour certains, le fidèle c'est le pinot. Le bus est pas, le bus est plein. C'est fou à Paris, tous les gens qui se lèvent tôt. Avant de bagnoler Pavena, les contrôleurs ont pu se dire que j'avais poinçonné et défaut. Je garde mon sang-froid, faut être à la hauteur. Obligé de leur offrir mon petit numéro. Moi c'est un pauvre néguillère encore sur le bateau. Pas comprendre rien, pas piger un seul mot. Intrigué, il me fait descendre par là son supérieur. Si tu croyais que j'allais l'attendre, dico, n'est pas tonton, je l'appelle. Tonton galop garné, contrôleur arrive. Tonton galop garné, leur son. La 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 ton. J'avais failli perdre ma casquette. J'avais froid au nez, j'avais froid aux oreilles. Je décide de prendre le métro à faire la chaise. Je regarde ma correspondance et je saute la barrière. Je monte dans la rame, m'assois sur un siège. Et là, deux quatre spinettes viennent me prendre la tête. Je les regarde dans les yeux comme je ne sais bien le faire. C'est bon jeune gens, quel est votre problème? Le problème pas rien de c'est qu'on n'aime pas les necks. Si t'es blanc c'est pas de ma faute, pour pas te faire de complexe. On me sent prévenir, il me colle indirect. Je sens la lacrymo, je gaz. Bon, quand on tombe, bon, j'arrive à la station, y'a pas un seul taco. Pour me détendre en attendant, je me roule un petit jogo. Une Renault 18 break qui s'arrête devant moi. À l'intérieur, y'avait trois colbocos. Pris en flaque, je suis sûr qu'ils voulaient m'emmener au steco. Désolé, mais c'est plus tard, mais je dois bouger en studio. Et j'ai des turbos, j'ai des turbos. Mais c'était pas le moment de jouer les escargots. Ne m'appelle pas Garnier, oui, ne m'appelle pas Ben Johnson. Mais bon, je vais être plus rapide que l'an et idiot. Je l'avais dans mon galop garni, colbocos. C'est bon, un peu de temps, mais c'est bon, bon.
C'est l'heure de le mettre sur le saucisse poche du Radio Campus, comme tous les mercredis à 7h06 ou à peu près. Jusqu'où ira la radicalisation d'Israël? C'est la question à laquelle a tenté de répondre Dominique Vidal, historien et journaliste, lors d'une webconférence, et c'est ce que vous entendrez ce soir pendant un long quart d'heure en Palestine. Quand un délégué syndical CGT fait son boulot auprès de ses collègues, vous savez comment ça s'appelle? Du harcèlement, d'après la direction de ProAPro. Et donc, Maximilien, salarié de ProAPro et syndiqué CGT, est attaqué par sa direction en ce moment. Vous pourrez entendre les prises de parole qu'il y a eu ce lundi lors du rassemblement de soutien à Maximilien devant sa boîte. C'est du son pris par notre camarade Cédric de la CGT de Tourcoing. Vous pourrez également entendre une interview de Valérie Grunt, secrétaire à l'organisation de l'Union départementale CGT du Nord, à propos des élections à venir dans les très petites entreprises. Mais tout de suite, un point d'actualité avec notre camarade Saïd Bouamama, c'est le monde vu d'en bas. Et c'est l'heure de le mettre.
Radio Campus.
Notre spécialité, ce serait d'être les spécialistes de la clarté dans la confusion.
106,6.
Bonjour, je suis Saïd Bouamama, sociologue et militant pour l'égalité des droits. Mes travaux portent sur les mécanismes et processus de domination. Nous inaugurons aujourd'hui cette nouvelle émission intitulée « Le monde vu d'en bas ». Ce rendez-vous bimensuel a pour objectif d'analyser l'actualité à partir des intérêts des classes populaires. L'actualité médiatique de ces dernières semaines a été marquée par la question des vaccinations contre la Covid, la nouvelle loi sur les séparatismes, le retour en France de l'OTAN et la remise du rapport Stora sur la mémoire de la guerre d'Algérie. La campagne de vaccination en Europe en général et en France en particulier s'est traduite par des difficultés au démarrage liées au manque de vaccins. L'Union européenne avait annoncé avoir pris toutes les mesures nécessaires pour satisfaire les besoins pour une vaccination rapide. La réalité a surtout mis en évidence un nouveau scandale s'ajoutant à celui de la pénurie de masques, des tests et des respirateurs. En outre, les laboratoires pharmaceutiques annoncent ne pas pouvoir assurer dans les délais les livraisons promises du fait d'une inflation de la demande. Étrangement, les politiques, journalistes et pseudo-experts sont silencieux sur la cause première de cette situation, à savoir le fait que la santé soit considérée comme une marchandise, comme une source de profit, comme relevant d'entreprises privées. Le scandale du groupe Sanofi suffit à montrer le caractère criminel de cette marchandisation de la santé. Ce groupe industriel a reçu au moins 100 millions d'euros de crédit d'impôt recherche par an, sans compter les remboursements de la sécurité sociale, et est incapable de produire un vaccin. Il est vrai que pour maximiser les dividendes versés à ses actionnaires, ce groupe a réduit de 40% le nombre de ses chercheurs en une décennie, c'est-à-dire a supprimé 400 emplois. La leçon à tirer de ces pénuries successives est nette. La santé doit cesser d'être confiée au secteur privé. Malgré la situation sanitaire, le gouvernement français considère que sa priorité est ailleurs, comme en témoigne l'ouverture des débats parlementaires sur deux projets de loi sécuritaires, loi sur la sûreté globale et loi contre le pseudo-séparatisme. Le premier accorde de nouvelles prérogatives aux forces de l'ordre, aux polices municipales et même aux agents de sécurité privée. Le second stigmatise les musulmans ou supposés tels comme danger pour la République ou la laïcité. La véritable raison de ces projets de loi est ailleurs. Le projet sur la sécurité globale vise à anticiper les contestations sociales grandissantes. Le second a proposé un bouc émissaire afin de détourner ces colères populaires légitimes. Le gouvernement annonce déjà qu'il faudra payer la facture de la pandémie. Il annonce pour ce faire la relance de la réforme des retraites et l'idée d'un effort collectif pour dépasser la crise. Il sait très bien que ces mesures susciteront des mobilisations qu'il s'agit d'anticiper en termes de répression d'une part et de manipulation idéologique d'autre part. En attendant, le CAC 40 se porte bien. Les actionnaires continuent d'encaisser des dividendes et de recevoir des aides publiques. Autre priorité du gouvernement Macron, la révision de l'histoire. L'historien Benjamin Stora a en effet remis à Emmanuel Macron un rapport sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Celui-ci lui avait été commandé pour proposer une politique de pseudo-réconciliation. Le rapport met sur le même plan la mémoire des colons et des colonisés, des bourreaux et des victimes. Sans surprise, le rapport est massivement rejeté en Algérie, alors qu'il est salué par la plupart des grands titres français. ce révisionnisme historique vise à masquer la réalité de ce qu'a été la colonisation en général et celle de l'Algérie en particulier. Rappelons ce qu'en disait déjà Aimé Césaire en 1955. Entre colonisateurs et colonisés, il n'y a de place que pour la corvée, l'intimidation, la pression, la police, l'impôt, le vol, le viol. La colonisation est un crime contre l'humanité et doit être reconnue comme telle. On ne dépasse jamais une page d'histoire sans la lire jusqu'au bout. Une autre priorité du gouvernement français est le renforcement de l'armée française et de son intégration dans l'OTAN. Un rapport de l'Institut néolibéral Montaigne appelle à renforcer considérablement l'armée française pour qu'elle puisse répondre aux enjeux contemporains. Sans surprise, les dangers ont selon ce rapport pour nom le terrorisme, mais aussi la Chine et la Russie. Dans le même temps, le ministre des Armées annonce ce 4 février que l'OTAN installera prochainement son centre spatial d'excellence à Toulouse. Alors que la pandémie a démontré le besoin de coopération, c'est à la guerre que se prépare la classe dominante. Le savoir est une arme. Il commence par savoir s'informer. Nous espérons que cette émission vous a aidé à décrypter les enjeux des informations médiatiques de ces dernières semaines.
I'm gonna make you mine.
Radio Campus.
Je n'accepterai pas votre méthode qui vise à empêcher la clarté pour l'auditeur.
106,6.
Il y aura très prochainement, du 22 mars au 4 avril, des élections TPE. Alors pour nous éclairer sur ce dont il s'agit, nous sommes avec Valérie Grunt, secrétaire à l'organisation de l'Union départementale CGT du Nord. Alors d'abord Valérie, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'une TPE? Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors une TPE, c'est une entreprise qui a moins de 11 salariés.
C'est ce qu'on appelle donc une très petite entreprise, c'est ça?
Tout à fait. Donc ça peut être du fleuriste, au serveur dans un café... dans un café ou la coiffeuse du coin qui vous coiffe tous les jours.
Les artisans, les petits commerces, etc.
Voilà, tout à fait.
Et ça représente quoi les salariés de ces très petites entreprises dans le paysage général? C'est quel pourcentage, on a une idée?
Alors en pourcentage, non. Au niveau national, c'est là pour les prochaines élections, c'est presque 5 millions de salariés qui vont voter pour ces élections. Et dans notre département, c'est 151 000, presque 152 000 salariés qui vont voter le 22 mars.
Alors, ce qu'il y a d'intéressant, enfin de remarquable, dans le sens où il faut le remarquer, c'est que ces élections, ce sont des élections sur sigle, hein, c'est des élections pour des syndicats, pour des salariés qui ne peuvent pas voter, qui ne peuvent pas avoir de syndicat dans leur boîte, en vérité, puisque pour être organisé syndicalement dans une boîte, il faut plus de 11 salariés.
Oui, tout à fait. Et on a aussi les salariés qui sont très isolés, comme les assistantes maternelles ou les particuliers employeurs. Et aussi, actuellement, avec donc la situation sanitaire, tout ce qui est les cafés, hôtels et restaurants, qui, du coup, n'ont aucun contact, en plus, avec les organisations syndicales. Cette élection est très importante pour la représentativité de chaque organisation dans le paysage national aussi.
Oui, parce que voilà, ce qu'on appelle la représentativité syndicale se fait sur trois versants, hein, les élections dans la fonction publique, les élections dans le privé, et ces fameuses élections TPE. Mais elles élisent qui ces élections? Parce que tu dis que c'est important pour les organisations syndicales, mais quelles instances vont déboucher de ces élections?
Alors, il existe au niveau de chaque région des commissions paritaires régionales. Donc, il y en a 13 comme 13 régions. Et donc, par exemple, les assistantes maternelles ou les salariés des particuliers employeurs ou des commissions paritaires spécifiques pour justement leur donner des droits. C'est un peu comme notre CE, les anciens CE dans les entreprises privées. Et aussi pour leur donner, par exemple, tout ce qui est les actions culturelles et sociales.
On a vu que cette... Alors, il y a la question de l'épidémie. Mais il y a peut-être aussi autre chose dans le fait que les conditions d'organisation de ces élections sont quand même un petit peu particulières. On a l'impression parfois que le pouvoir politique prend les élections des représentants des travailleurs un petit peu par-dessus la jambe. La date a été repoussée plusieurs fois et hors antenne, vous nous avez dit que c'était pas toujours évident de lire l'organisation de ces élections.
Oui, en effet, au niveau du site du gouvernement, il y a plusieurs donc professions de foi de chaque organisation syndicale, et pour les salariés qui n'ont pas forcément accès aussi à tout ce qui est l'informatique, hein, ou l'internet, hein, tout internet n'est pas sur le territoire à la même dimension, donc ce sont des salariés qui sont un peu perdus. C'est pour ça que nos unions locales au niveau du département vont mettre en place pour certaines, en tout cas, une
plateforme.
forme ou une
permanence peut-être.
Voilà, une voilà, merci, une permanence en fait pour que justement les salariés.
Oui, parce que c'est un vote. C'est un uniquement vote sur Internet évidemment. Oui.
Par courrier aussi, mais par électronique la majeure partie. Et donc c'est important qu'on les aide parce qu'en plus ils reçoivent un code pour avoir accès, en sachant qu'ils ont déjà reçu un premier code et vont recevoir un deuxième code. C'est assez compliqué. Et vous doutez bien que garder ce petit code précieusement jusqu'au 22 mars, ça peut être très très compliqué.
Il faut le coller sur le frigo, c'est ça.
Voilà, faut le coller sur le frigo, on peut le perdre, ouais. Faut demander où on l'a rangé, etc.
Ouais. Bah déjà, on a déjà une expérience des élections TPE, c'était en 2016. Oui. Quelle était la participation?
Alors, au niveau du département, la participation était à 8,4 et au niveau national, c'était 7,35. Pour vous donner une idée, hein, au niveau de la CGT, ça représente dans notre département que 3 200 voix, alors qu'il y avait 142 000 salariés votants en 2016. Donc c'est vraiment important de réussir à gagner la participation au niveau de ces élections. Hein. Vraiment, c'est important parce que au niveau de la CGT, c'est ces élections-là qui nous permettent de garder notre première place au niveau des organisations syndicales.
Oui, parce que la CGT était arrivée largement en tête lors des premières élections TPE. Oui. Donc en 2016. Mais comment une organisation syndicale, et en l'occurrence la CGT, peut aider un salarié des TPE? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui dans la mesure où il ne peut pas être délégué dans la boîte, il ne peut pas se présenter aux élections? C'est quoi l'intérêt pour lui, pour le salarié des TPE?
Alors le salarié TPE, c'est pour une organisation syndicale, lui permet de ne plus être isolé, de ne plus être seul, donc d'être à ses côtés. Hein. On fait aussi beaucoup de permanence juridique, hein, parce que ces salariés, comme vous le savez, sont dans des petites entreprises où très souvent le patron ne connaît pas forcément les droits des salariés, et c'est une entreprise familiale où donc le salarié parfois travaille beaucoup. Hein. En moyenne, un salarié d'une très petite entreprise travaille 36h30, hein, travaille plus que le 35 heures, et les heures supplémentaires sont rarement, très peu se payer en tout cas, donc c'est vraiment, et puis bon, par rapport aux assistantes maternelles par exemple, parfois le particulier employeur, le parent, ne connaît pas qu'il doit respecter quand même un délai de prévenance lorsqu'il ne souhaite plus mettre son enfant à l'assistante maternelle, donc c'est vraiment, on les accompagne dans leur dossier, et au niveau juridique, en tout cas dans nos permanences, on reçoit énormément de salariés des très petites entreprises. Juste parenthèse, hein, au niveau des élections, il y a les apprentis aussi qui vont voter, et les apprentis, pareil, en ce moment-là, avec la crise sanitaire, on leur arrête leur contrat du jour au lendemain, sans explication, sans rien. Donc c'est vraiment, nous, en tout cas, au niveau de la CGT, on est là pour les aider et à défendre leurs droits, quoi, tout simplement.
Alors la campagne est lancée, on peut le dire. On verra sans doute dans les journaux ou sur les murs de nos villes, enfin sur les
dans
panneaux,
les radios aussi,
sur les panneaux, on verra sans doute des affiches de la CFDT, de FO, de la CGT et des autres. Mais est-ce qu'il y a une particularité dans la façon de mener campagne chez vous à la CGT?
Alors au niveau de la CGT, on a mis en place au niveau du département pas mal de matériel, hein, qui est un triptyque, hein, sur ce qu'est être salarié d'une TPE, les votes et l'intérêt de voter et l'intérêt d'être syndiqué à la CGT aussi. Après, au niveau de zone locale, on va accrocher des banderoles pour être visible avec justement ce qu'on appelle le mail et les coordonnées de chaque union locale pour que le salarié qui passe peut appeler, contacter en tout cas quelqu'un de l'union locale en tout cas. Et aussi après, c'est surtout là une campagne de collage, et après on va mettre en place une caravane TPE qui va se déployer sur tout le département, donc début mars jusqu'au 22 mars.
Et j'imagine que ce qui peut-être fait la différence, c'est qu'il fait les 10 points d'avance dans la région. J'ai le papier sous les yeux là sur le syndicat FO, 10 points d'avance lors des premières élections. C'est peut-être aussi simplement l'habitude de militer peut-être à la CGT, donc d'aller chercher des voix, je dirais quasiment au corps à corps.
Oui, oui, tout à fait. La CGT, on est avant tout une organisation de proximité, et donc c'est être sur le terrain, proche des salariés, et de leur montrer l'intérêt d'être à la CGT. Hein. Vraiment, aujourd'hui, avec toutes les actions qui peuvent être menées au niveau national ou départemental sur la défense des salariés, hein, comme Cargill ou Carambar ou Nocibé actuellement, fait que la CGT est très visible sur le département, et ses salariés, les salariés des très petites entreprises, nous connaissent en tout cas sur le terrain.
quartier qui me quitte. C'est moi je quitte le quartier. J'ai maillé, maillé, maillé déjà. J'ai pas baillé, baillé, fait des dégâts. T'as un gribord de bombardier. J'vais te casser le dos, pas te marier. Me tiens pas la main, ça va parler. J'ai déjà le ballon baissé sur le palier. Comme autre tu mets au, j'suis médaillé. Pas mon lance négro, allez, d'aller. La cuenta fut très très sale. T'as à l'âge, j'vais la faire chialer. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler, mailler, mailler. Ton nom de famille sera prise d'otage. À quoi sert d'être lion en cage? Envoie le H, les millions cash. Pour mailler, mailler, mailler. Madame la juge est lente de rage. J'ai mis trahi comme un sauvage. C'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi, je quitte le quartier. J'ai maillé, maillé, maillé déjà. J'ai bataillé, taillé, fait des dégâts. Je n'entends pas douter ces hyènes. J'suis devant un plat de thieboudienne. Même moi, j'pourrais rougir de haine. Esclave n'a pas de remise de peine. Ceux qui ne veulent pas faire de business, je vous en prie, descendez là. Le cours de tâche n'est qu'est en baisse. Sers-moi un shot de Mandela. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler, mailler, mailler. Ton nom de famille sera prise d'otage. À quoi sert de pion en cage? Envoie le H, les millions cash. Pour mailler, mailler, mailler. Madame la juge est lente de rage. J'ai mis trahi comme un sauvage. Lion de la terre en Gaïa R. J'ai fait ce qu'il fallait, fallait. Sénégal, DKR, génération boule, fallait, fallait. Il aimait l'Afrique, mais la moulin l'a poussé à tailler, tailler. Passe-moi les masses à Mama Kosa, FL Omar, Salvatrocha. Oh, négro n'a pas vraiment de shot. Le boulet plat, tu ne fais pas vraiment de squat. Pour toi, j'ai formule adéquate. Hyperkit de gauche à droite. Tyson Gribord de bombardier. J'vais te casser le dos. Et la branche a trop accéléré. Elle a gâté le rôle. Première ou arrière des mers. J'ai changé le port. Je suis pirate donc loup de mer. Je peux te montrer les crocs.
Radio Campus.
Les grands, je les casse en deux. Les petits, je les allonge. Un conseil, ne jouez pas au plus con avec moi, vous n'êtes pas sûr de gagner.
106,6.
Vous êtes venus très nombreux aujourd'hui. Bravo! À l'heure où le Parlement croupion vote les pleins pouvoirs au gouvernement par l'intermédiaire de la loi séparatisme, ça fait chaud au cœur de voir que la classe ouvrière est capable de se mobiliser quand on attaque l'un des leurs. Max, je vais te laisser la parole.
Merci à toutes et à tous d'être présents. Je peux vous dire, ça fait chaud au cœur. Nous sommes tous devant ProAPro pour dire stop aux pressions de la direction et aux agissements visant à me nuire. Lorsque l'on touche à un d'entre nous, on touche à tous. Depuis la création de la CGT ProAPro Nord, alors qu'il n'y avait aucune organisation syndicale, la direction tente de nous rabaisser et de nous salir pour empêcher les salariés de nous rejoindre. Comme le licenciement de deux camarades la première année de la section pour apeurer les salariés. Ces manœuvres s'accélèrent depuis nos questions sur les dividendes et la structuration de l'entreprise pour la reconnaissance de l'unité économique et sociale de ProAPro, unifiant ainsi tous les salariés du groupe, permettant de développer une riposte collective face aux logiques inhumaines de la multinationale. À savoir que ProAPro fait partie du groupe Metro, dont mes camarades sont venus aussi ici pour nous soutenir. Vous n'hésiterez pas à vous rapprocher de la tribune pour prendre la parole, les camarades. C'est important de dire ce que l'on vit. Depuis la création du syndicat départemental Commerce et Services du Nord, c'est moi qui suis visé par la direction. Aujourd'hui accusé injustement d'harceler un collègue à travers mon rôle de délégué, alors que c'est un sujet à ne pas prendre à la légère. C'est justement une des choses que l'on combat le plus. Ma situation n'est pas un cas isolé. Comme dans beaucoup d'entreprises, lorsqu'ils ne trouvent rien, ils n'hésitent pas à mettre en scène des mascarades pour faire taire et écraser toute contestation à leur cruauté capitaliste. Votre large soutien et votre présence ici montrent qu'on est, quand on milite, on n'est plus seul. Le grand patronat et le gouvernement utilisent les mêmes méthodes et les mêmes schémas de division pour rabaisser le peuple à la plus basse condition de bétail. Faire un maximum de profit sur notre dos en évitant toute contestation. Ça nous montre bien qu'ils réfléchissent et agissent en classe, en soi, car ils se reconnaissent entre eux, et pour soi, car ils fonctionnent pour eux, sur notre dos. Nous, les créateurs de richesses, la solution qu'il nous reste, travailleuses et travailleurs, c'est de retrouver notre conscience de classe pour agir de suite face à la classe dominante et construire ensemble le monde de demain, pour le peuple et par le peuple. L'union fait la force, alors soyons forts!
Résistance ! Résistance ! Résistance !
J'appelle à la tribune Amar Laga, secrétaire général de la Fédération Commerce et Services CGT. Que ceux qui ont préparé une prise de parole n'hésitent pas à se rapprocher de la tribune.
Merci Max, merci à tous et à toutes d'être venus. C'était pas prévu, mais aujourd'hui, Max l'a mieux décrit que tout le monde. Ce que subissent les travailleurs aujourd'hui qui luttent, c'est cette nouvelle stratégie du patronat avec l'accord du gouvernement, c'est de s'attaquer aux élus de la CGT. Les écarter de l'entreprise, au lieu de parler des faits réels, parce que tout simplement, Max a oublié de le dire, la CGT a demandé la reconnaissance d'une unité économique et sociale dans cette boîte. C'est à partir de là, les foudres sont arrivées. C'est à partir de là que Max était venu une cible contre le capital. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Moi, je suis venu de Paris sans hésiter une seconde avec des camarades. Et le nombre de soutiens que nous recevons à la Fédé, qu'on t'a renvoyé ici à cette entreprise, sont immenses, qui prouvent encore dans ce pays qu'on peut lutter, qu'il y a encore de la solidarité, même si certains veulent nous diviser. Il ne faut pas qu'on se trompe de combat, les camarades. Il y a un seul adversaire, c'est le capital. Eux, ils ont compris, ils sont rangés entre eux, ils sont organisés entre eux. Tous ces grands groupes, il y a les camarades de métro qui sont là, mais c'est les mêmes patrons. Eux, leur objectif, c'est de détruire les travailleurs. Il faut que les travailleurs s'unissent. Eux, en face, ils ont trouvé la solution. Ils sont unis, mais pas pour l'intérêt des travailleurs, pour leur intérêt financier. On le voit de partout aujourd'hui. Je pense aux travailleurs d'IKEA, deux délégués syndicaux dans l'Île-de-France qui ont été mis à pied conservatoire pendant 2 mois, tout simplement parce qu'ils avaient fait grève. C'est-à-dire pendant 2 mois, il n'y a plus de CGT dans l'entreprise. Je pense aux camarades de Carrefour et d'autres secteurs. Des centaines de camarades aujourd'hui subissent cette répression. Mais s'ils pensent qu'ils vont nous faire peur, ils se trompent. Au contraire, ça montre la détermination, on le prouve aujourd'hui. Alors il faut qu'ils entendent très bien. Aucune procédure à l'encontre de Max doit être jugée. Toutes les procédures vont être arrêtées immédiatement. On mettra tous les moyens pour que Max retrouve sa place et revendique et lutte pour les travailleurs. Mes camarades, il y a 2 camps dans ce pays. Dans une barricade, il y a 2 côtés. Je pense que nous, on a choisi notre côté. C'est la lutte des travailleurs et la lutte de classe. Merci d'être là. Soutien à Max.
La parole à Jean-Paul de Lescot, secrétaire général de l'Union départementale des syndicats CGT du Nord.
Mes camarades, Max l'a dit clairement, et bien sûr Amar aussi, et je pense que je vais pas innover dans ce sens-là. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de renforcer notre camp, le camp des travailleurs. Et ça se voit là, ça se voit, il y a le syndicat départemental qui est présent, du commerce, il y a les camarades de l'arrondissement du Douaisis, plus largement du Valenciennois, la métallurgie qui vient en soutien, la région, l'union départementale, pour dire quoi? Pour dire qu'on ne laissera pas faire tous les jours. Tout à l'heure, Ludo prendra la parole et le dira pour demain SKF. Tous les jours, nos camarades de la CGT sont attaqués. Sont attaqués pourquoi? Parce que nous, on revendique, on n'est pas les chiens de garde du patronat. On représente la classe ouvrière, on représente les travailleurs de ce pays, on se courbera pas. On a besoin aujourd'hui plus que jamais de militer et de revendiquer. Il y a plusieurs dates, j'en profite d'avoir la tribune. Le 20 mars, dans le Roubaisis, c'est comme ça qu'on dit ?
À Roubaix,
un appel départemental contre la misère. Parce qu'on a besoin aussi d'être partout, dans les syndicats, dans les entreprises, dans nos quartiers. La misère écroule le pays. Et on a besoin d'être présent le 23 pour dire stop au licenciement. À Douai, devant la cour d'appel, avec les Cargill, mais aussi avec toutes les entreprises en lutte dans le département. On a besoin de converger, on a besoin d'être ensemble. C'est deux dates qu'il faut déjà travailler, deux dates qu'il faut déjà construire ensemble et les réussir. Merci mes camarades.
Merci Jean-Paul. Maintenant à la tribune, un moment important, c'est la maman de Max qui doit être très fière de son fils aujourd'hui.
Que de souvenirs, et ça fait du bien, merci. Alors, nous sommes tous ici aujourd'hui pour apporter notre soutien à Maximilien Blanquet, alors avec un T, pas avec un R. Hein. À la CGT, il y a des valeurs. C'est la fraternité entre chaque camarade. Quand un délégué est attaqué, c'est l'ensemble des délégués qui sont attaqués. Quand on attaque la CGT, on attaque tous les syndiqués. Quand on attaque un fils, un frère, c'est toute la famille qu'on attaque. Tous aujourd'hui pour le même combat. C'est quoi ce monde où l'on veut écraser et faire taire ceux qui luttent et se battent pour le bien de tous? Eh bien non, nous ce monde de profit pour quelques-uns, on n'en veut pas. Nous on veut un monde meilleur pour les gens, tous les gens, et pas pour quelques-uns. N'en déplaise au patronat, n'en déplaise au capitalisme, on a encore quelques droits et beaucoup de capacités à agir. Alain Brunel, notre député communiste, l'a dit dans ses vœux. Seul, on ne peut pas faire. Mais tous ensemble, on est fort. Gardons le moral, gardons le courage. Demain sera un jour meilleur si c'est notre détermination. Vive la lutte, vive la CGT.
Merci. J'appelle Alain Brunel à la tribune.
Comme il disait Maximilien, ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de monde. Ça fait plaisir de se voir rassembler. Ça fait plaisir aussi d'être avec les nôtres, d'être avec lui, parce que c'était dit plusieurs fois. Si on touche à un membre de la famille de la CGT, c'est toute la CGT qui est touchée. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est en train de nous priver des libertés. La liberté syndicale, la liberté de vivre. On nous dit simplement, allez travailler à 18h à la maison, vous bougez plus. Qu'est-ce que c'est que ce gouvernement? 100 milliards qui ont été votés par ce gouvernement, pour quoi faire? Pour donner 40 milliards aux entreprises sans contrôle de l'utilisation de l'argent public? Est-ce que c'est ça qu'on veut? On veut pas du tout de ça. Et les salariés, on leur dit, contentez-vous de ce qu'on vous donne. Point final. Mais nous, on veut le partage des richesses. Ils se sont jamais engrangés depuis la pandémie. La pandémie, elle a bon dos. La pandémie, elle fait les fortunes des uns, la misère des autres. Nous, tous ici rassemblés. On se laisse pas faire. On gagnera parce que nous sommes des vainqueurs. Parce qu'on va pas se laisser faire. Parce que la liberté, elle peut pas être calée aujourd'hui. On peut pas priver la liberté d'un délégué syndical parce qu'aujourd'hui il est pas un salarié. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Parce que on dit, regardez comment ils nous regardent. Mais nous, comment on regarde ce gouvernement? On a le mauvais œil contre ce gouvernement. On n'est pas avec lui. On est là pour sauver des vies. On est là aujourd'hui parce que le gouvernement fait quoi? Il a fait le choix. Il a fait le choix de sauver le capital. Il a pas fait le choix de sauver les gens. On voit aussi ce qui se passe dans la pandémie. Quel moyen il met pour le vaccin pour tout le monde? Aucun moyen n'est donné pour le vaccin. Alors que le vaccin, c'est un bien commun, c'est le bien de tout le monde. Alors camarades, je ne veux pas être beaucoup plus long, vous pouvez compter sur le député communiste qui a toujours été présent dans toutes les luttes et continuera. Vous pouvez compter sur l'ensemble des élus communistes qui sont présents aujourd'hui, sur le Parti communiste. On sera toujours avec vous, à vos côtés, pour la liberté de tous.
C'est au-delà des mots que notre camarade Maximilien a démontré par sa pratique qu'il était et qu'il est plus que jamais l'un des nôtres. Un de ces travailleurs parmi des milliers qui a décidé de relever la tête. Délégué syndical, s'est jeté dans la tôle de pro à pro. Notre camarade Maximilien est de toutes les luttes, que ce soit parmi les gilets jaunes, contre la loi travail, contre la réforme des retraites, sur les piquets de grève, d'ACFA, Cargill, Courtepaille et dans bien d'autres luttes. Passant du « jeu » au « nous », le patronat a pris peur, de telle sorte que, non content d'avoir échoué dans sa tentative de domestication de notre camarade, aujourd'hui la direction le réprime, comme Macron le fait, accompagné de son bras armé, celui de l'État bourgeois, contre les gilets jaunes. Comme la justice bourgeoise le fait contre l'infirmière, aujourd'hui convoquée au tribunal de grande instance de Paris. Et cette répression prend donc plusieurs formes, qu'elle soit physique, juridique, psychologique, au travail ou dans la rue. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un acharnement et un acharnement qui doit cesser. Il est donc de notre responsabilité à toutes et tous, ici camarades et aux travailleurs en général, de faire de ce combat un exemple de discipline, de détermination contre ceux qui, chaque jour, nous exploitent, nous volent, nous humilient, nous calomnient, jusqu'à nous jeter dehors de nos tôles, mais aussi de nos maisons, nous et nos familles entières. Alors, exigeons l'abandon de toute procédure à l'encontre de notre camarade, et immédiatement. Et faisons de ce rassemblement une démonstration de force qui doit sonner dans la tête du patron comme un avertissement. Et dans le cas contraire, nous n'hésiterons pas à faire de cette entreprise un exemple de boycott. et on va le ruiner. Et que ce patron et ses sbires se le tiennent pour dit. C'est nous qui faisons l'histoire. Et c'est la résistance des opprimés, des travailleurs, qui est et sera la solution. Bourgeois, tremblez!
Les cigares, ils changeront de bouche. Quand les stars, elles changeront de main. Quand la bonne soupe, elle changera de louche. Qui sera dans le bottin? Quand les gibus, ils changeront de tête. Quand les bagous, elles changeront de doigts. Quand l'omarie changera de fourchette. Les employés, on sera les rois. Il faudra plus nous négliger. C'est nous qu'on sera les PDG.
C'est nous qu'on sera les PDG.
Remarquez même en Rockefeller, je resterai quand même fils d'ouvrier. Qu'un employé à bas salaire, c'est une chose à pas oublier, oui, mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui changera de biniou, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime changera de client, quand les smokings changeront de valise, alors l'a dit, et gentiment, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Les cigares, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront de main, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui sera dans le potin, quand les gibus, ils changeront de tête, quand les bagous, elles changeront de doigt, quand l'homard, il changera de fourchette, les employés, on sera les rois,
il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG.
Un quart d'heure en Palestine.
Israël, qui a déjà connu trois scrutins législatifs successifs en 2019 et en 2020, va voter à nouveau le 23 mars prochain. Au-delà de l'élection du nouvel Knesset, le Parlement unique israélien, les citoyens devront au fond trancher deux questions. Vont-ils mettre fin au règne record de Benjamin Netanyahou, et si oui, par qui le remplaceront-ils et à la tête de quelle majorité? Et la deuxième question posée aux électeurs, c'est sur le fond celle-là, vont-ils poursuivre la radicalisation impulsée par la droite et l'extrême droite ou bien lui porter un coup d'arrêt? Cette radicalisation, elle a réellement commencé depuis 2015 avec l'arrivée au pouvoir de la coalition la plus nationaliste de l'histoire du pays, et elle comporte, pour schématiser, cinq dimensions. La première dimension, c'est la nouvelle loi constitutionnelle qui a été adoptée le 19 juillet 2018. Il faut savoir qu'Israël n'a pas de constitution, parce que son fondateur, David Ben-Gourion, n'avait pas voulu affronter les partis religieux pour lesquels seule la loi divine, la halakha, pouvait en tenir lieu. L'État s'est donc doté, au fil des décennies, de lois fondamentales, basic laws, qui régissent ses principales institutions. En 1992, l'une de ces lois avait défini l'État comme, je cite, « juif et démocratique ». Cette formule a été remplacée l'été 2018 par une autre, je cite, « État-nation du peuple juif ». Son article 1 précise, je cite toujours, « le droit d'exercer l'autodétermination nationale dans l'État d'Israël » est propre au peuple juif, donc pas aux autres. La même loi a aboli, avec son article 4, le statut officiel que l'arabe partageait avec l'hébreu depuis 1948. La langue de l'État, dit l'article 4, est l'hébreu. Enfin, l'article 7 stipule, je cite, « que l'État considère le développement des colonies juives comme une valeur nationale et agira pour encourager et promouvoir leur création » et leur renforcement. Il suffit de jeter un œil sur la déclaration d'indépendance d'Israël du 14 mai 1948 pour voir que cette loi contredit un des principes qu'affichait en tout cas la déclaration d'indépendance, qui disait que le nouvel État, je cite, assurera une complète égalité de droits sociaux et politiques à tous ses citoyens, sans distinction de croyance, de race ou de sexe. À l'inverse, vous l'avez vu, la nouvelle loi fondamentale constitue le cadre légal d'un système d'apartheid à l'israélienne. Ce n'est pas un gros mot, apartheid. Ce n'est pas l'Afrique du Sud. C'est simplement le fait, et c'est le cas avec cette loi, que les Juifs jouissent de tous les droits politiques et les Arabes de très peu. Comme le texte, en plus, ne précise pas les frontières de l'État d'Israël dont il parle, la loi fondamentale du 19 juillet 2018 peut apparaître comme préparant l'annexion du reste de la Palestine. Ce qui m'amène à la deuxième dimension fondamentale de la radicalisation, c'est une loi précédente adoptée par la Knesset le 6 février 2017. Officiellement, elle s'appelle « loi de régularisation ». On pourrait l'appeler, c'est ce qu'avait proposé le député Benny Begin, le fils de Menachem Begin, l'ancien premier ministre d'extrême droite d'Israël, on pourrait l'appeler loi de confiscation, parce qu'elle permet à l'État d'Israël de mettre la main non seulement sur les terres palestiniennes publiques, comme il l'a fait depuis 1967, mais aussi sur des terres privées, en l'occurrence celles où sont installés les avant-postes, ces colonies non reconnues qui se sont beaucoup développées dans les 20 dernières années. Donc cette loi, si vous voulez, ouvre la voie à ce qu'on appelle, c'est la langue de bois, l'extension de la souveraineté israélienne à tout ou partie de la Cisjordanie. En réalité, de la solution des deux États, on passerait à la solution d'un seul État. Ça implique un tout petit retour en arrière de 50 ans. La troisième guerre israélo-arabe en 1967, comme chacun sait, a duré 6 jours. Et au septième, Israël avait quadruplé son territoire. Son armée s'était emparée du Sinaï égyptien, du Golan syrien, mais aussi de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. L'État juif récupérait ainsi le reste du mandat britannique qui lui avait échappé en 1948. Et du coup, c'est très important ça, il devenait l'unique responsable du sort de la Palestine. Jusque-là, jusqu'en 1967, les États arabes, s'ils l'avaient voulu, auraient pu créer un État palestinien en Cisjordanie, à Gaza, avec Jérusalem-Est pour capitale. Ils ne l'ont pas fait. À en croire les diplomates israéliens, après la guerre de 1967, ces territoires occupés ne représentaient qu'une carte à jouer dans de futures négociations, d'autant que la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le 22 novembre 1967, soulignait, je cite, « l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la guerre ». Et donc l'ONU, Conseil de sécurité, exigeait qu'Israël se retire de ces territoires occupés pendant la guerre. Et 5 jours plus tard, le général de Gaulle faisait une déclaration presque visionnaire. Elle vaut d'être écoutée avec le recul, c'est presque incroyable. « Maintenant, Israël organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion, et il s'y manifeste contre lui une résistance qu'à son tour, il qualifie de terroriste. » En réalité, dès la fin juin 1967, Israël a annexé Jérusalem-Est pour la réunir avec Jérusalem-Ouest et former ainsi la capitale dite « réunifiée » de l'État. Au passage, il avait d'ailleurs étendu Jérusalem-Est sur 64 km² pris à la Cisjordanie pour pouvoir y implanter un grand nombre de colonies. Aujourd'hui, à l'est de Jérusalem, il y a quasiment le même nombre d'habitants juifs et arabes. Quant à la Cisjordanie, le plan Alon y prévoyait l'implantation de colonies dites de sécurité, notamment dans la vallée du Jourdain. Mais en fait, c'était le lancement d'un mouvement qui allait, en 50 années, permettre l'installation de plus de 700 000 colons juifs aujourd'hui, 470 000 en Cisjordanie et 230 000 à Jérusalem-Est, les 8 000 de la bande de Gaza l'ayant quitté, comme vous le savez, en 2005. Voilà pourquoi cette loi du 6 février 2017 constitue un tournant historique. Alors, il est vrai que la Cour suprême d'Israël a gelé cette loi. Mais la Cour suprême elle-même est une cible de l'alliance actuelle au gouvernement qui prétend en modifier la composition et en réduire les attributions. En tout cas, les partis de droite et d'extrême droite, notamment Benjamin Netanyahou et un de ses rivaux, Naftali Bennett, entendent aller jusqu'au bout du processus en annexant progressivement le reste de la Palestine. C'est la troisième dimension de la radicalisation. C'est ce que la droite, l'extrême droite israélienne, ont toujours appelé « Eretz Israël ». On appelle ça, disons, pour traduire, le « Grand Israël ». C'est au fond le slogan de la droite et de l'extrême droite israélienne depuis leur victoire historique en 1977. Mais sauf à Jérusalem-Est, ce slogan ne s'est jamais traduit en acte. C'est l'élection de Donald Trump en 2016 qui a offert à la droite israélienne l'occasion de traduire ce slogan en acte. La décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, d'y transférer l'ambassade des États-Unis, a donné une première preuve de la détermination de Trump. S'y est ajoutée ensuite la décision de ne plus considérer les colonies de Cisjordanie comme illégales, ce qui était la position américaine. Et voilà que le deal du siècle, comme a dit Trump, a offert à la droite et à l'extrême droite la possibilité d'annexer la vallée du Jourdain ainsi que l'ensemble des colonies et des avant-postes juifs de Cisjordanie, soit au total plus de la moitié de la Cisjordanie. Si bien qu'au lendemain du scrutin du 2 mars 2020, le troisième de la série, Benny Gantz, trahissant son parti blanc-bleu comme ses électeurs, s'est rallié à Netanyahou et lui a permis de former une coalition destinée au fond à empocher le cadeau du président américain, malgré, c'est vrai, un programme rédigé de manière ambiguë qui ne comporte pas le mot « annexion ». Il n'empêche que lors du discours d'inauguration devant la Knesset le 17 mai de ce nouveau gouvernement, Netanyahou a déclaré, je cite, « C'est sur ces territoires que le peuple juif est né et s'est développé. Il est temps d'y appliquer la loi israélienne et d'écrire un nouveau chapitre glorieux dans l'histoire du sionisme. » Et de préciser, les centaines de milliers de résidents de Judée-Samarie, je traduis en français de colons de Cisjordanie, resteront toujours chez eux. Alors, démagogie ou programme concret? Ce qui est sûr, c'est que l'annexion figurait au cœur des dernières campagnes électorales du chef du Likoud. Il avait promis successivement celle de la vallée du Jourdain, puis des colonies de Cisjordanie, et même de la ville de Hébron. Sauf cette dernière, c'est effectivement le contenu du plan Trump. L'Assemblée, la Knesset, était donc censée voter à partir du 1er juillet 2020 une loi encadrant en droit israélien les annexions prévues. 7 mois plus tard, force est de constater qu'elle ne l'a pas fait. Alors pourquoi? Sans doute, l'opposition d'une partie importante de l'opinion israélienne a douché les ardeurs du Premier ministre. À en croire les sondages de l'époque, seul un quart des Israéliens, 26% exactement, soutenaient l'annexion, 40% préférant une solution à 2 États, 22% un désengagement unilatéral, comme Sharon l'avait fait pour Gaza, et 13% le maintien du statu quo. Peut-être aussi les États-Unis n'étaient-ils guère empressés de concrétiser leur offre, qui restait à préciser. Il demeurait en particulier de bonnes sources, d'après ce qu'on m'a raconté, beaucoup de désaccords sur le tracé précis des zones à annexer. Et puis Bibi, comme on l'appelle là-bas, redoutait visiblement une levée de bouclier de la communauté internationale, État et citoyens, pour une fois, sur la même longueur d'onde. Il n'est pas exclu, d'ailleurs, qu'un doute l'ait effleuré quant à la réélection de son parrain américain et par conséquent sur la pérennité d'une, comme il dit, extension de la souveraineté israélienne. En tout cas, ce qui s'est passé, vous vous en souvenez, au mois d'août dernier, c'est que Netanyahou a fait de mauvaise fortune bon cœur, comme on dit, et il a renversé son discours. Empêcher l'annexion est devenu, aux yeux des dirigeants arabes, un prétexte idéal pour s'engager dans un processus de normalisation avec Israël, sans exiger, comme dans l'initiative arabe de paix de 2002, le retrait d'Israël des territoires palestiniens occupés en 1967 et l'établissement d'un État palestinien en Cisjordanie et à Gaza, avec Jérusalem-Est pour capitale. Mais si le processus législatif qui était prévu à partir du 1er juillet 2020 avait pu se concrétiser, se traduire sur le terrain, l'enterrement de la solution dite des deux États au profit d'un seul État se serait imposé et pourrait à nouveau s'imposer si le nouveau gouvernement, après les prochaines élections, développer cette politique. Et du coup, la question clé, la question essentielle, ce serait celle du statut des Palestiniens annexés avec leurs terres. Je parle bien des Palestiniens de Cisjordanie et de Jérusalem-Est, pas de ceux d'Israël qui disposent du droit de vote, qui ont des partis, qui peuvent être élus, etc. Pour la droite, il n'y a aucune hésitation, il est exclu de considérer les Palestiniens des territoires comme des citoyens, de peur que, devenus majoritaires avec leurs frères en Israël, ils remettent en cause le caractère juif de l'État unique ainsi créé. Et même l'opinion, dont je vous ai dit qu'elle était hostile à plus des trois quarts à l'annexion, estimait néanmoins à 69% qu'il ne fallait pas donner le droit de vote aux Palestiniens des territoires. Ceci explique cela, selon les statisticiens israéliens comme palestiniens, aujourd'hui, au moment où nous parlons, les Arabes sont désormais aussi nombreux que les Juifs sur le Grand Israël ou la Grande Palestine, comme vous voulez, en gros 7 millions de part et d'autre. Sans tenir compte, évidemment, des 5 à 6 millions de Palestiniens vivant à l'étranger, des réfugiés de la guerre de 48 ou de la guerre de 67, et sans tenir compte non plus, bien sûr, des 10 millions de Juifs qui vivent ailleurs qu'en Israël. Voilà pourquoi l'État unique version droite et extrême droite ne peut être qu'un État d'apartheid. Rares sont d'ailleurs au sein du Likoud les voix discordantes. La plus significative, c'est celle du président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, qui est un partisan du Grand Israël, mais qui ajoute, je le cite, « Appliquer la souveraineté à une zone donne la citoyenneté à ceux qui y vivent. Il n'y a pas de loi différente pour les Israéliens et pour les non-Israéliens. » La quatrième dimension de la radicalisation de la coalition sortante, c'est l'arsenal liberticide qu'elle a fait voter par la Knesset depuis le début de la décennie. Au cas où les rapports de force démographiques, en particulier, changeraient. J'y insiste parce que, regardez bien sur Google, presque aucun média français n'a parlé de ces lois. On a une telle image d'Israël que l'idée qu'il ait pu se donner des lois liberticides paraît, j'allais dire, pas cachère. Ou pas halal, comme vous préférez. Je vous donne quelques exemples, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a évidemment une loi, vous en doutez, qui interdit tout appel, je cite, « au boycott d'une personne en raison de ses liens avec Israël ou des régions sous le contrôle d'Israël », ça veut dire les colonies, 2011. Une autre loi prive de subventions d'État les organisations, institutions ou municipalités qui commémorent la Nakba, c'est-à-dire l'expulsion de 800 000 Palestiniens en 1948. Loi de 2011 aussi. Le même texte instaure, ça s'appelle des comités d'admission, pour décider si une ou des personnes venant s'installer dans une localité ou une cité, en l'occurrence juive, sont, je cite, « convenables ». Je vous laisse réfléchir sur ce qui peut rendre quelqu'un convenable ou pas convenable. Une autre loi, plus tardive, de 2016, contraint les organisations non gouvernementales, les ONG, a déclaré plusieurs fois par an les subventions en provenance de gouvernements étrangers si celles-ci représentent plus de la moitié de leur budget. Et évidemment, la plupart des ONG droits de l'hommiste, B'Tselem, Breaking the Silence, etc., ont un budget qui est largement alimenté par des gouvernements ou des fondations à l'étranger. Il y a aussi un texte qui date de 2016, unique au monde, puisqu'il permet à 90 députés sur 120 d'expulser les autres du Parlement, pour incitation au racisme, soutien à la lutte armée, etc. Imaginez que le groupe LERM à l'Assemblée nationale se réunit et décide de virer du Parlement, pas pour la journée, pas pour la session, mais jusqu'à la fin de la législature, les députés, que sais-je, insoumis, communistes, verts, socialistes, etc. Je pense que même en Corée du Nord, on n'a pas une loi de ce type. Une autre législation accorde des pouvoirs exceptionnels à l'État contre les organisations terroristes, ce qu'on peut comprendre, bien sûr, mais la loi précise, et y compris leurs membres passifs. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un membre passif ? On dirait du Darmanin, ou presque. Une autre loi, permet l'emprisonnement à partir de 12 ans de mineurs accusés de plusieurs crimes violents. Une législation, toujours 2017, autorise Israël à refouler à ses frontières les personnes ou les représentants d'entreprises, de fondations ou d'associations appelant au boycott. Je rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme a confirmé il y a quelques mois que le boycott faisait partie de la liberté d'expression, que c'était un droit citoyen, pour peu évidemment qu'il n'appelle pas, qu'il n'incite pas à la haine raciale, etc. Et puis il y a une loi quasiment totalitaire qui date de 2018, qui permet au Premier ministre et au ministre de la Défense de déclarer la guerre seul, sans consulter ni le cabinet de sécurité, ni a fortiori le gouvernement. Cinquième et dernière dimension de la radicalisation, ce sont les alliances que nous, qu'a noué, qu'il continue à nouer, Benjamin Netanyahou, avec tout ce que l'Europe, et d'ailleurs le monde, compte de forces populistes et d'extrême droite. Je crois que tous les observateurs savent ce que le Premier ministre israélien faisait le 16 juillet 2017. Il écoutait, ravi, Emmanuel Macron déclarait lors de la commémoration du 75e anniversaire de la rafle du Veldiv, je cite, « Nous ne céderons jamais à l'antisionisme, car c'est la forme réinventée de l'antisémitisme. » Peut-être certains d'entre vous savent que j'ai écrit un livre de réponse sur ce point à Emmanuel Macron. En revanche, en tout cas, beaucoup d'observateurs ignorent où se trouvait Benjamin Netanyahou le surlendemain, le 19 juillet. Eh bien, il était à Budapest, aux côtés de son homologue, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán. Et pourtant, Viktor Orbán, quelques semaines plus tôt, avait fait un discours pour qualifier d'homme d'État exceptionnel un certain Miklós Horthy. Est-ce que vous savez qui est Miklós Horthy ? C'était le régent du royaume de Hongrie depuis 1920, qui a fini dans la collaboration. Il a obéi à l'Allemagne nazie et les lois antisémites qu'il avait promulguées avant déjà ont permis à Eichmann et à ses hommes de déporter en 3 mois 450 000 juifs hongrois qui ont été gazés dès leur arrivée à Auschwitz. Voilà l'homme que le Premier ministre hongrois, ami de Netanyahou, a qualifié d'homme d'État exceptionnel. Ce négationnisme qui est en vogue à Budapest l'est aussi à Varsovie, où la Diète a voté une loi criminalisant la critique de la collaboration polonaise avec le Troisième Reich. On a un peu toussé à Tel Aviv, et puis il y a eu une petite modification de la loi, en tout cas le type de peine qui était assorti à la loi, et ça a suffi à Benjamin Netanyahou pour blanchir son homologue, Mateusz Morawiecki, dans une déclaration conjointe. Figurez-vous que cette déclaration, Yehuda Bauer, qui est le principal historien israélien de la Shoah, un des dirigeants de Yad Vashem, le mémorial de la Shoah, cette déclaration, donc, il l'a qualifiée, je cite, « de trahison stupide, ignorante et amorale de la vérité historique sur l'implication polonaise dans l'Holocauste ». La Lituanie envisage aussi de voter une loi négationniste de ce type. Et pourtant, le pourcentage de juifs exterminés pendant la guerre y a atteint 97%, nombre d'entre eux assassinés par des unités de collabos lituaniens, dont une partie d'ailleurs avant l'arrivée des Einsatzgruppen, c'est-à-dire les groupes nazis de tuerie mobile qui accompagnaient la Wehrmacht pour liquider les hommes, les femmes et les enfants juifs. Et pourtant, Netanyahou, dont la famille est originaire de Lituanie, a salué à Vilnius, lors de sa visite, les efforts de son homologue en matière de commémoration de la Shoah. Et le responsable du centre Simon Wiesenthal de Vilnius, qui s'appelle Ephraim Zuroff, a répondu « Il n'y a jamais eu de réaction israélienne à la distorsion de la Shoah. Les Lituaniens peuvent glorifier des gens qui ont assassiné des Juifs. » À condition évidemment qu'ils jouent comme les Lettons, les Estoniens, les Hongrois, les Polonais, les avocats de Tel Aviv au sein de l'Union européenne. Car c'est en fait le deal. Voilà ce qu'a expliqué Netanyahou lui-même avant d'aller à Vilnius faire ce voyage. Je cite « Je souhaite parvenir à un équilibre dans les relations pas toujours amicales de l'Union européenne envers Israël. » Je le fais par des contacts avec des blocs de pays de l'Union européenne, des pays d'Europe de l'Est et maintenant avec des pays baltes. Tout cela afin de réduire l'isolement d'Israël que sa radicalisation pourrait, à la longue, rendre infréquentable. Au centre de cette stratégie de Netanyahou figure ce qu'on appelle le groupe de Visegrad, que dirigent désormais des populistes de droite, Pologne, Hongrie, Tchéquie, ou de gauche, la Slovaquie. Le flirt de Netanyahou avec ses forces s'étend aussi à la quasi-totalité des partis d'extrême droite d'Europe occidentale, même l'Alternative für Deutschland, l'AFD. Et pourtant, si la présidente du parti, Beatrix von Storch, souligne son soutien à Israël dans le combat commun contre l'islamisme, d'autres dirigeants multiplient les provocations. Par exemple, Alexander Gauland, qui est un des deux porte-parole de l'AFD, assure que les Allemands peuvent, je le cite, « être fiers des performances de leurs soldats durant les deux guerres mondiales ». Et un ancien ministre et chef du Mossad, rendu célèbre par l'enlèvement d'Eichmann, feu Rafi Etan, il est mort il y a quelques mois, n'avait éprouvé aucun état d'âme à envoyer le message suivant au congrès de l'AFD, je le cite aussi, « Chacun de nous en Israël apprécie votre attitude envers le judaïsme. Je suis sûr que si vous travaillez avec force et plus important de manière réaliste, au lieu de représenter une alternative pour l'Allemagne, vous pourriez devenir une alternative pour toute l'Europe. » Au fond, on pourrait dire que le fil rouge de cette drague de Netanyahou en Europe, c'est qu'importe qu'il soit négationniste, voire antisémite, pourvu qu'il soit pro-israélien. Et que dire des fans français de Netanyahou qui prétendent en permanence nous donner des leçons en matière de lutte contre l'antisémitisme? Le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, est beaucoup plus sérieux que par exemple Francis Khalifa, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, puisqu'il dit, lui, clairement, « Nul ne peut être reconnu comme un ami d'Israël s'il est antisémite ». À mon avis, on aurait tort de réduire ces manœuvres à l'expression d'une réelle politique. Elles relèvent aussi de l'ADN personnel et politique de Netanyahou. Personnel, car son père, Benzion Netanyahou, a toujours milité à l'extrême droite du mouvement du leader révisionniste Zev Jabotinsky. Quant à son fils, Yair, il a été jusqu'à offrir son visage à une affiche du mouvement néo-nazi AFD dont je parlais, intitulée, je cite, « Être libre, démocrate et chrétien ». On se demande pourquoi le visage du fils de Netanyahou figure sur une telle affiche. Mais je parlais d'ADN politique aussi, parce que les ancêtres du Likoud, l'Irgun, le Bétar, le Lehi, ont fricoté avec le fascisme et le nazisme. Ça n'empêche pas, des décennies plus tard, le grand historien Netanyahou de se ridiculiser en attribuant la paternité de la Shoah non pas à Hitler, mais au grand moufti de Jérusalem, Amin al-Husseini. Il accuse le moufti d'avoir soufflé au Führer l'idée de la Shoah lors de leur rencontre du 28 novembre 1941. C'est de l'analphabétisme pur et simple. Parce qu'à cette date, 28 novembre 1941, ce qu'on appelle la Shoah par balle avait déjà exterminé des centaines de milliers de Juifs dans l'Union soviétique occupée. Quant aux chambres à gaz, elles étaient déjà testées, et notamment à Auschwitz. À force de rabâcher que le moufti a rejoint, seul d'ailleurs, Berlin, et créé deux légions SS bosniaques, ce qui est vrai, pas palestiniennes, bosniaques, on finirait par oublier que le Lehi d'Yitzhak Shamir, par exemple, a proposé en 1941, en tant que tel, une alliance au Troisième Reich. Et que le Bétar, puis l'Irgun, dès les années 1920, avait bénéficié du soutien politique et matériel de Mussolini, lequel déclarait, je le cite, « Pour que le sionisme réussisse, confiait le Duce, il vous faut un État juif avec un drapeau juif et une langue juive. La personne qui comprend vraiment cela, c'est votre fasciste, Jabotinsky. » Tel grand-père, tel père, tel fils, c'est sans doute ce dont la majorité des électeurs israéliens ne veulent plus. Mais ils ne sont pas parvenus à dégager Netanyahou lors des trois élections législatives déclenchées par ce dernier en 2019 et 2020. Car c'est bien lui qui, par trois fois, a pris l'initiative de provoquer l'autodissolution de la Knesset. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il rêvait d'avoir une majorité suffisante pour écarter l'épée de Damoclès qui planait au-dessus de sa tête, un triple procès pour corruption, malversation et abus de confiance, sans compter l'affaire encore ignorée de la justice, et j'ajoute des médias français, des sous-marins achetés dans des conditions troubles à un chantier naval allemand. Netanyahou n'a réussi à gagner que du temps. Le procès est désormais ouvert, mais, Covid oblige, reporté de mois en mois. En revanche, son pari politique, il ne l'a ni gagné ni perdu. Et c'est pourquoi les Israéliens revoteront le 23 mars prochain. Ils ont été assez nombreux pour bloquer par trois fois le chef du Likoud, qui n'a pas obtenu de majorité en réalité, mais ils n'étaient pas assez nombreux pour ouvrir une alternative. D'où l'impasse. Ni la droite pro-Bibi, ni le centre-gauche, avec même parfois l'appui de la liste arabe, ni Avigdor Lieberman, le faiseur de roi, le chef du parti russe, n'ont réussi à former un gouvernement alternatif. Il aura fallu, je l'ai dit, que le clown triste de la politique israélienne, Benny Gantz, se dégonfle pour que Bibi puisse survivre provisoirement à cette triple défaite. À quoi Benjamin Netanyahou doit-il ce sursis ? Et devra-t-il peut-être un quatrième sursis, bien qu'orphelin, de son principal joker, Donald Trump ? On a évoqué sa chutzpah. C'est en hébreu un mot qui dit « culot », mais en plus fort que « culot ». Une chutzpah de démagogue prêt à dire tout et son contraire, à mentir comme un arracheur de dents, à exciter les plus bas instincts. Le Premier ministre a aussi bénéficié de la mobilisation de l'international populiste qu'il n'a cessé, je l'ai montré, de courtiser, à commencer par celui que j'ai décidé d'appeler maintenant le docteur Folahen, par référence au docteur Folamour du fameux film. Même Poutine, pourtant sauveur du boucher de Damas, a laissé l'aviation israélienne bombarder régulièrement la Syrie, à condition qu'elle n'y cible que les forces iraniennes. Mais Bibi a surtout bénéficié, je voudrais y insister, de l'absence de toute alternative, qui explique fondamentalement la droitisation de l'opinion israélienne. Dans le débat, peut-être qu'on pourra signaler que cette situation n'est pas propre à Israël, elle existe dans d'autres pays, peut-être même le nôtre. La liste unie a fait des scores exceptionnels, mais sa cohésion reste menacée, et la gauche sioniste, le Meretz, et surtout le parti travailliste en chute libre, n'était pas prête à s'allier avec la liste arabe. Quant aux centristes du parti bleu-blanc, ils se présentaient comme plus modérés que le Likoud, mais ne s'en différenciaient pas nettement. Gantz ne s'est-il pas vanté dans un spot télévisé de la campagne d'avoir partiellement réduit Gaza, je cite, à l'âge de pierre. De même, à l'annonce des ambitions annexionnistes du Premier ministre, ne lui a-t-il pas reproché, je le cite, de lui voler son programme ? Bref, son ralliement final à Netanyahou n'a surpris que les aveugles. En réalité, une phrase suffirait à résumer le triple scrutin de 2019-2020 en forme de loi politique rédigée, parfois il est arrivé de dire des choses justes, par Jean-Marie Le Pen. Le Pen disait, je le cite, « Les gens préfèrent toujours l'original à la copie ». À cette semaine des quatrièmes législatives israéliennes en deux ans, rien, hélas, n'a vraiment changé. Netanyahou se trouve plus que jamais sur un siège éjectable, mais la gauche arabe et juive ne parvient pas à proposer une alternative à la radicalisation mise en œuvre par l'Alliance populiste.
dont les véritables challengers se trouvent soit au centre, avec Yair Lapid et son parti Yesh Atid, il y a un avenir, soit à droite, avec le Likoudnik dissident Gideon Saar, soit plus à droite encore, avec le colon fasciste soft Naftali Bennett de Yamina, le parti qui s'appelle à droite. Pas d'illusion, je vous en prie, l'expérience française le montre, quiconque se présente comme le bouclier contre l'extrême droite peut parfaitement s'en révéler le tremplin. Le dernier obstacle sur lequel Netanyahou et sa ligne ultranationaliste pourraient trébucher n'est donc pas intérieur, mais extérieur. Avec Trump, Bibi surfait sur l'air du temps. Avec Biden, il est à contre-courant. Permettez-moi une petite parenthèse avant de terminer, une parenthèse française et lointaine. En 1969, le candidat communiste Jacques Duclos rassemble 22% au premier tour de l'élection présidentielle, mais ne parvient pas au second. Et il présente les deux adversaires, qui sont tous les deux de droite, Georges Pompidou et Alain Poher, comme, je cite, « blanc bonnet et bonnet blanc ». Depuis, sa formule a servi à toutes les simplifications. Et la revoilà qui permet de renvoyer dos à dos Trump et Biden. C'est vrai que tous les deux sont des présidents des États-Unis, soucieux que la première puissance mondiale résiste au déclin intérieur et extérieur qui la menace, mais ils ont une vision très différente de la manière de défendre les intérêts américains, y compris au Proche-Orient. Autre précaution, Biden n'habite la Maison-Blanche que depuis moins de 15 jours. Trump lui a savonné la planche, Netanyahou et ses alliés arabes, en particulier les deux Mohamed, le Saoudien Ben Salman et l'Émirati Ben Zayed, ont aussi travaillé sur la planche. Un président des États-Unis a d'autres priorités que le Maghreb et le Mashrek, et puis il lui faut tenir compte du Congrès, du Département d'État, du Pentagone, de la CIA, du FBI, des lobbies en tout genre, et puis au sein du Parti démocrate, des tiraillements entre la gauche et la droite. Bref, il faut être prudent et voir venir Biden. Mais pourtant, en deux semaines, les partisans du blanc-bonnet-bonnet blanc ne peuvent défendre leur doxa qu'en faisant mine de ne pas voir, d'une part, les engagements de Joe Biden et de Kamala Harris, à supposer qu'ils les tiennent, ce qui n'est pas sûr, mais aussi ce qu'ils ont déjà mis en œuvre. Le dossier qui avance le plus, c'est l'Iran. Biden semble décider à négocier avec Téhéran afin de rejoindre, sous une forme ou sous une autre, l'accord sur le nucléaire. Un signe qui ne trompe pas. La nomination et le maintien, malgré d'énormes pressions d'Israël et de ses avocats américains, de Robert Malley comme responsable de ce dossier. Et puis hier, on apprenait que le porte-avions USS Nimitz, qui avait été envoyé par Trump pour menacer Téhéran, faisait demi-tour. Biden l'a rappelé. Certains admettent que l'affaire iranienne va progresser, mais pas, disent-ils, le conflit israélo-palestinien. Là encore, comme disait un certain révolutionnaire barbichu, les faits sont têtus. Pas question, c'est vrai, pour Biden, de revenir sur le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Mais la nouvelle administration est en train de rouvrir le consulat américain à Jérusalem-Est. Un geste qui réinterprète la décision de Trump. Ça veut dire que Washington reconnaît bien Jérusalem comme capitale d'Israël, mais se réserve la possibilité qu'elle soit aussi la capitale d'un État palestinien s'il voyait le jour. Deuxièmement, la diplomatie américaine revient à ses positions traditionnelles. Elle veut une solution à deux États. Elle considère à nouveau les colonies comme illégales et a fortiori toute forme d'annexion. Bref, elle enterre le plan Trump. Dans l'immédiat, Kamala Harris a annoncé trois gestes symboliques et politiques. La reprise des négociations avec les Palestiniens et de l'aide financière directe que leur accordait Washington avant Trump. La réouverture de la mission palestinienne à Washington, fermée par Trump. Et surtout, le retour politique et financier de Washington à l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens que Trump avait quittée en coupant les cordons de la bourse. Trois gestes qui viennent d'être officialisés hier
par le président en personne. Enfin, sur la normalisation israélo-arabe, l'attitude de la nouvelle administration est pour le moins ambiguë. Officiellement, Biden est pour. Mais il a, semble-t-il, le pied sur le frein. Hier, par exemple, on a appris la remise en cause de la livraison des chasseurs F-35 aux Émirats et de nombreuses autres armes à l'Arabie saoudite. En italien, on dit « cornuto, bastonato e contento ». Ça veut dire « le cocu battu et content ». Et puis, depuis une semaine, alors ça n'est pas encore officiel, mais je vous en informe comme une rumeur qui court à Washington, il est question que l'Amérique renonce à reconnaître la marocanité du Sahara occidental, que Mohamed VI croyait avoir encaissé en échange du lâchage de la Palestine. Va-t-on, dans les mois qui viennent, vers une déradicalisation de la politique israélienne ? La question pourrait enfin se poser. Merci de votre attention.